Vielen Dank, Herr Willi.
Merci, Monsieur Willi. Mesdames et Messieurs, les maladies cardiovasculaires sont encore et toujours la principale cause de décès en Union européenne. 40% des décès, et vous voyez ici donc la répartition, ce sont les maladies cardiovasculaires qui sont présentées en rouge, et vous voyez également donc les âges, la répartition par âge, et au fur et à mesure qu'une personne est plus âgée, donc le risque de maladies cardiovasculaires et de décès à la suite de cela donc va en augmentant. Plus de 40% finalement des décès causés par des maladies cardiovasculaires, et on parle donc de 2 millions de décès en Union européenne. 2 millions de personnes décédant de ces maladies cardiovasculaires en Europe. Et l'on voit donc cette augmentation du nombre de décès au cours du vieillissement, ce qui fait que plus la population vieillit, plus cette proportion des décès dus aux maladies cardiovasculaires va aller en augmentant. Il y a des facteurs de risque en ce qui concerne ces maladies cardiovasculaires. Lors d'une analyse sur la charge globale des maladies, on a défini les 6 principaux facteurs de risque qui valent, ce qui est intéressant pour l'ensemble du monde, c'est-à-dire l'Union européenne, mais tout aussi bien pour des pays en voie de développement. Et nous avons une classification de ces 6 facteurs de risque. Je vais passer en revue avec vous ces facteurs de risque pour voir quelle est leur répartition, dans quelle mesure pouvons-nous maîtriser ces risques en Union européenne? Que faire face à ces risques? Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Je commence par l'hypertension et vous voyez que là, de loin, le risque le plus important pour les maladies cardiovasculaires, c'est justement cette hypertension. Ensuite, deuxième partie, le tabagisme, vous voyez. Ensuite, le taux élevé de cholestérol. Ensuite, quelque chose de très important, ou disons moins important pour ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, le poids à la naissance des nouveau-nés. Ensuite, naturellement, les comportements sexuels à risque. Mais ensuite, vous avez, par exemple, le manque de fruits et de légumes dans l'alimentation. Ensuite, l'obésité, excédent de poids pathologique. Et ensuite, donc, Ce que l'on remarque donc sur l'ensemble de ces facteurs, c'est qu'ils sont tous liés à notre style de vie et que par des modifications de notre style de vie, on pourrait influer justement sur ces facteurs à risque. C'est ce que l'on peut penser. Et c'est justement cela qui est le contenu, qui constitue le contenu d'une charte sur les maladies cardiaques en Europe. C'est la société de cardiologie donc qui a rédigé ce texte, cette charte. Et là, on a donc les représentants de cette, ou disons les auteurs de cette charte qui ont donc élaboré des suggestions à faire aux politiques pour avoir une meilleure prévention des risques cardiovasculaires dans les différentes sociétés, mettre en plan les mesures correspondantes. Et au cours des 4 ou 5 années passées, il y a des pays tels que le Luxembourg, l'Irlande, l'Espagne qui ont lancé des mesures. En Allemagne, nous n'avons pas encore véritablement pu avancer. Nous avons essayé de nous adresser à la chancellerie, à notre ministre de la Santé, tandis que l'Union européenne n'a rien d'autre à faire que de dire, justement, durant notre présidence de l'Union européenne ici en Allemagne, nous devons donc promouvoir ces mesures. Je vais vous montrer donc quels sont les messages les plus importants qui sont contenus dans cette charte et qu'est-ce que l'on peut changer. Je disais donc, alors en ce qui concerne les charges globales, eh bien c'est l'hypertension qui prévaut et la question est de savoir où se trouve l'Allemagne dans le concert des pays européens. Vous allez, vous ne pourrez pas lire, je pense, le G qui signifie Germany. Mais vous voyez que l'on se trouve ici en tête pour toutes les tranches d'âge, que l'on prenne 45, 55 ans, ou la tranche d'avant, la tranche d'après, c'est exactement la même chose. Vous voyez que même donc dans la première tranche d'âge, vous avez déjà un groupe de 35% qui a une hypertension. Et ensuite, donc, la courbe va en augmentant. Et chez les populations les plus âgées, on se retrouve à 85% d'hypertension. Donc, nous sommes encore les champions du monde ou les champions d'Europe, au moins, en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait donc un cas, qu'il y ait des cas très importants d'apoplexie, par exemple, juste après la Finlande, la Germanie, donc l'Allemagne, pardon, au deuxième rang. Et l'on voit ici l'emplacement, le positionnement des États-Unis, Canada, qui se trouvent en position beaucoup plus favorable. Alors, une fois qu'on a repéré cette hypertension, lorsque le patient donc va être traité pour cela, que se passe-t-il dans les différents pays? Est-ce qu'on arrive bien à régler la pression sanguine? Et là, on voit qu'on a, normalement, on prend une valeur limite de 140 à 90. C'est ce que l'on juge étant une valeur tolérable. Et là, on voit que l'Allemagne a 10% des patients où l'on connaît vraiment donc cette hypertension. Elle est diagnostiquée. On commence donc avec une valeur systolique 140 et de moins de 86 diastolique. Et donc, on voit que finalement, 90% des patients ayant donc ces facteurs donc ne sont pas repérés suffisamment ou sont très, très mal traités. Alors, les facteurs qui peuvent influer, il y a naturellement les exemples maintenant des pays méditerranéens, de l'Espagne, de l'Italie, la France qui ont pris la tête en ce qui concerne maintenant la lutte contre le tabagisme. Et on sait bien qu'on n'aura jamais vraiment d'interdiction totale du tabac ou de zones libérées du tabac. Mais on a vu justement les exemples de ces pays, on a vu ce qu'ils ont réussi à faire. Et ils sont vraiment pris la tête, ils nous ont dépassés. Et on a parlé déjà des résistances, au contraire, qui s'exercent en Allemagne, de telle sorte qu'il n'est toujours pas possible d'avoir une réglementation à l'échelon fédéral en Allemagne, puisqu'on parle toujours du système fédéral. Et on dit, ah, mais moi, je ne peux rien faire. Chaque État fédéré, chaque land peut faire ce qu'il veut. Donc, on traverse une frontière d'un land et à un kilomètre de là, on a une réglementation différente de l'autre land. Là, nous avons vraiment un problème spécial ici en Allemagne et notre problème, c'est qu'il est parfaitement clair que de fumer activement et porte à préjudice à la santé, mais aussi les fumeurs passifs doivent être protégés. Donc, il faut s'adresser aux fumeurs actifs. Il faut leur dire, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut absolument la peine d'arrêter de fumer. Au bout de 20 minutes, j'ai déjà donc la pression sanguine, la tension qui baisse, qui revient à une valeur normale. Au bout de 2 jours, le risque d'infarctus va en s'abaissant. Au bout de 9 mois, la capacité pulmonaire va augmenter de 30%. Au bout d'un an, donc, le risque de maladie cardiaque va baisser de manière significative, etc. Et nous avons les chiffres correspondants. Nous avons de grandes études qui, pour des pays où soit il y a eu véritablement une interdiction de fumer, par exemple, dans les bâtiments publics, sur les lieux de travail, dans les transports publics, ou bien certains pays où ce sont les citoyens eux-mêmes, la société elle-même, qui dit que dans les espaces publics, on ne doit pas fumer. Et je vous présente certains exemples de ces localités, par exemple en Arizona. Il y a énormément de places, de superficie. On fait 80 000 et sans rencontrer personne, etc. Et pourtant, il y a eu donc Pueblo City où l'on a interdit la consommation de tabac. Une autre ville, El Paso, et on voit des chiffres, on voit ce qui s'est passé avant l'interdiction de fumer, par exemple à Pueblo City, là où il y a eu ce décret. Vous aviez 257 infarctus du myocarde actifs, aigus, pardon, et après la réglementation, 187. Et lorsque les gens ont été informés et ont vu que c'était pas mal du tout d'arrêter de fumer, que ça avait, il y a eu un effet, donc, et. Alors que loin de là, où les gens n'étaient pas informés, eh bien le nombre d'infarctus n'a pas changé. Alors, nous sommes vraiment toujours dans ces facteurs à risque qui représentent des charges très importantes, des contraintes très importantes. On a parlé de l'hypertension, on l'a vu, c'est mal traité, c'est mal repéré. Deuxièmement, le tabagisme. Bon, là, on commence tout juste à voir ce que cela apporte de ne pas fumer, aussi bien pour les fumeurs actifs que pour les fumeurs passifs. Et d'ailleurs, malheureusement, on n'a pas fait d'études sur la fréquence des infarctus du myocarde aigu chez les fumeurs et chez les non-fumeurs et les différences. Mais bon, globalement, on a ces résultats, c'est déjà important. Le troisième facteur, c'est le taux de cholestérol trop élevé. Et là, grosse désillusion. Et là, chez les patients que je traite, je leur dis le taux de cholestérol est trop élevé, le mauvais cholestérol est beaucoup trop élevé. Et ils me répondent, je ne veux pas de comprimé, je ne veux pas prendre de pilule. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu me donnes un semestre, je vais changer de régime, je ne vais plus prendre de viande de porc, etc., de jarret. Et je vais donc faire passer mon LDL, mon cholestérol LDL, de 180 à 140. Et ou alors, bon, on fait un peu d'exercice physique le matin et au bout de 6 mois, LDL 170. Et c'était parti de 180. Alors je dis, ben, ça ne suffit pas, hein. Hypertension, risque génétique à 50 ans, le risque d'avoir un infarctus du myocarde est très important. Et c'est très difficile, mais d'arriver donc à aller dans la bonne direction et de voir quelles sont les possibilités que nous avons à l'heure actuelle. Or, nous avons d'excellentes possibilités, mais on a besoin de faire appel là à l'industrie pharmaceutique. Ce sont les statines qui permettent de lutter contre l'hypercholestérolémie. Et là, il faut trouver une formule en fonction des risques pour éliminer ce mauvais cholestérol, le LDL. Il faut obtenir à ce moment-là donc une réduction vraiment significative des risques de maladies cardiovasculaires. J'ai choisi cette étude pour vous montrer que selon l'abaissement, la réduction de ce cholestérol LDL, on peut prendre par exemple 40 mg de l'une des statines, par exemple, on a une réduction, ou bien 80 mg de atorvastatine, on arrive même à diminuer de moitié. Alors, ce sont des statines qui agissent de manière plus ou moins agressive. Et là, vous voyez deux courbes dans le temps, donc sur 2 ans et demi, on voit que les courbes s'écartent petit à petit. Là, c'est une statine qui a fait moins de 10% d'abaissement du LDL et là, 40% de réduction de LDL. Et on voit donc que les ciseaux, si vous voulez, l'écart s'ouvre. On arrive ensuite à 16% au bout de 2 ans et demi. Donc, 16% de moins de décès suite à des maladies cardiovasculaires. Et l'on a également donc une étude qui concernait les attaques, les apoplexies. Et là, on n'a vu que la réduction plus agressive du cholestérol LDL, pouvait engendrer de nouveaux événements cérébraux. Alors, le rêve de tous les médecins qui traitent ces maladies des lipides, c'était d'éliminer, donc, ou de réduire le cholestérol LDL, mais pas seulement cela, mais aussi d'augmenter le facteur du bon cholestérol, c'est-à-dire HDL. Et là, c'est pour apporter une preuve du principe, on a pris donc des populations qui se trouvent au lac de Garde dans le sud. Et on avait vu qu'il y avait ces populations qui étaient particulièrement âgées et des gens qui s'étaient installés là. Et c'était tout à fait remarquable. Ils avaient des valeurs de cholestérol très basses. Un chiffre de 15. En fait, ce sont des gens qui devraient mourir à 40 ans. Or, ils avaient tous, ils étaient centenaires. Alors, en fait, ceci est dû à ce que l'on appelle l'apoprotéine A1. C'est une protéine qui a une capacité donc, pour inverser le transport de cholestérine. C'est-à-dire que c'est une source de décharge des déchets dans le corps. On arrive, vous avez ces plaques qui se forment ici, qui sont détachées, qui sont transportées et qui sont ensuite éliminées. Donc, et il y a une mutation ici, mais à ce moment-là, cette HDL a une fonction bien plus importante que notre HDL normal. Et là, c'était la question de savoir si on pouvait avoir une thérapeutique correspondante. Il y avait des infusions qui ont été données à ces patients avec justement cette protéine A1. Et on a réussi, donc avec les ultrasons, de montrer exactement l'étendue de ces plaques, de ces dépôts, donc, dans les coronaires et dans l'aorte. Et c'était vraiment une preuve très claire sur cet échantillonnage de patients. Or, bon, on sait que c'est une protéine qui est extrêmement coûteuse. Les infusions tous les jours, c'est très cher. Mais on a véritablement une régression des plaques. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais observé jusque-là. Bon, comme c'est beaucoup trop coûteux comme fabrication en génie génétique, on s'est demandé quel était le principe de fonctionnement et on a vu qu'on arrive à tirer beaucoup plus de cette HDL si j'ai une métabolisation qui passe par le CETP. Et à ce moment-là, par l'inhibiteur CETP contre les lipides, on arrive à ce moment-là à fabriquer davantage de HDL. Or, si l'on a davantage de HDL, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était le désastre, justement, au début de cette année. Ça a été vraiment le gros titre. Effectivement, on fait baisser le LDL, on fait augmenter le HDL de presque 100%. Et on avait là vraiment des attentes considérables. On a dit on va avoir des résultats grandioses. Or, les premières mesures, les premières études, les mesures donc des dimensions des plaques, c'est ce que l'on appelle l'étude Illustrate. Et on voit donc le rapport avec la dimension des plaques et on voit que le volume des plaques change, prend même une valeur négative, plus la valeur LDL est basse. Et là, vous avez ce groupe Illustrate. Et avec torcetrapib, et là, vous avez ce groupe-là est complètement en dehors. On a à la fois LDL, réduction LDL, augmentation HDL, et on se retrouve là, vous voyez, complètement en dehors. Et on a une grosse déception en ce qui concerne ces résultats. Là, il y a beaucoup plus d'événements cardiovasculaires. On a on voulait montrer vraiment donc les effets. Et l'explication, en fait, il y a deux possibilités. La première, c'est que l'HDL qui se produit suite à l'inhibition du CETP, c'est-à-dire de cette protéine de transfert, que cette HDL n'est pas véritablement fonctionnelle apparemment. Ou bien, deuxième explication, on ne sait pas vraiment pourquoi cette concentration produit donc 6 mm par HK. Pourquoi il y a cette différence, puisque 70% donc avaient à ce moment-là, des patients avaient des crises par rapport à 10% dans l'autre groupe témoin. Alors là, il faut dire que bon, c'était une bonne réflexion au départ, une bonne idée. C'était vraiment donc fait sur mesure pour réduire les risques. Mais résultat tout à fait décevant, on a tout de suite arrêté. Mais bon, la chose à laquelle on n'avait pas pensé, ou à laquelle on ne pouvait peut-être pas penser, c'est que certes, le cholestérol va dans la bonne direction, mais il y a un autre facteur à risque très important qui a augmenté en même temps, à savoir la tension. Alors, j'en reviens donc à la question du régime de vie. Est-ce que j'arrive à influencer le taux de cholestérol? Ou est-ce que ça veut dire, au contraire, je mange tout ce que je veux, tout ce qui est bon, ça fait rien, peu importe ce que je mange? Non, ce n'est pas tout à fait ça, manifestement. Ce sont d'ailleurs les Français qui ont été les premiers à repérer cela et qui nous ont donc un petit peu instruits en ce qui concerne un mode de vie raisonnable. D'abord, d'avoir ce que l'on appelle le régime méditerranéen, après, suite à une crise, c'est ce qu'on en appelait l'étude Lyon, le régime de Lyon. Et là, il faut voir ce qui se passe dans les années suivantes. Suite à l'adoption de ce régime, et l'on voit donc 44 nouveaux événements cardiovasculaires ou décès et 14 seulement dans le groupe qui adopte ce régime raisonnable. Alors, qu'est-ce que cela comprend, ce régime? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas une substance que je pourrais isoler? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait donc utilisé particulièrement? Oui, il y a deux substances, et ce sont des substances qui, entre-temps, sont devenues la base de toute une industrie et qui ont déclenché un engouement absolument incroyable. Alors, vous voyez donc les études qui se penchent sur l'une de ces substances, à savoir resveratrol, qui a l'effet pratiquement donc d'une drogue. Resveratrol, ça a été donc inventé en 1940. C'est ce qu'on appelle phytoalexis, c'est-à-dire c'est une substance qui donne aux plantes qui ont trop peu d'eau, trop peu d'éléments nutritifs, une protection, ce qui fait que les plantes vivent, non seulement elles vivent, elles survivent dans les conditions difficiles, mais en plus elles survivent plus longtemps que d'autres plantes dans les conditions normales. On s'est dit, cela pourrait se faire aussi donc chez les mammifères. Chez les mammifères, on voit qu'en cas de stress, en cas de réduction des calories, en cas de réduction de l'alimentation, chez les rongeurs, par exemple, et chez d'autres mammifères, la durée de vie, à ce moment-là, est prolongée. La durée de vie est prolongée de 30%, même de 40% en cas de réduction de calories. Donc, chez les plantes et chez les animaux, il y a manifestement donc des réactions similaires du corps, et c'est ce que l'on appelle xénohormésis, c'est-à-dire l'adaptation d'un être vivant à un univers hostile qui ne lui donne pratiquement pas de chance de survie. Alors, si nous faisons cela, manifestement, on emprunte des voies, c'est-à-dire la plante produit quelque chose, des substances qui permettent une survie. Et alors, voilà le truc. La question est de savoir, est-ce que je peux aller rechercher cette substance de la plante? Est-ce que je peux transposer cela sur un mammifère? Apparemment, cela semble marcher. Vous voyez donc les différents éléments, le passage pour aller aux insectes, aux poissons, jusqu'aux rongeurs. Et là, il se passe trois choses. Premièrement, certaines formes de cancer sont pratiquement éliminées complètement. La peau, les tumeurs de la peau n'existent plus lorsque ces animaux prennent du resveratrol. En plus, la durée de vie augmente de 15 à 70% selon les espèces. La question qui se pose est de savoir, cette substance, est-ce qu'on peut l'appliquer de la même façon? Est-ce qu'on, de la façon dont elle a été transférée des plantes vers les animaux, est-ce qu'on peut passer des animaux à l'être humain? Alors on se demande, mais où est-ce qu'on en trouve? Évidemment, dans le vin rouge en France. Le vin rouge, selon les sites géographiques, etc., le vin rouge comprend une forte dose de resveratrol. Il ne faut pas s'étonner donc qu'il y ait des branches industrielles complètes qui s'occupaient donc de ce phénomène. Et il ne s'agit pas donc de mourir de faim, de se torturer de cette manière, mais de profiter donc de cette substance. Et l'on a donc une longévité prolongée, on a moins de tumeurs, etc. Et puis il y a une autre substance qui a un effet similaire, à savoir réduction des tumeurs, réduction des valeurs des maladies cardiovasculaires, amélioration de la durée de vie, de l'espérance de vie. C'est l'épicatéchine. Et l'épicatéchine, où est-ce qu'on en trouve? Professeur Ganten est parti, mais il prend du thé vert, je sais, tous les jours. Dans le thé vert, il y a beaucoup d'épicatéchine. Mais dans le chocolat amer aussi, il y en a beaucoup. L'épicatéchine permet de libérer le NO. Et ainsi, finalement, j'ai un autre principe qui est appliqué ici, qui aide aussi donc pour la santé, qui permet d'éviter les maladies. Pour resveratrol, j'ai dit, donc, on a donc on a les mêmes signaux. Et là aussi, on peut avoir la même chose, par exemple, on peut avoir le même phénomène, c'est-à-dire cette libération de NO en bougeant beaucoup, en faisant de l'exercice physique. Mais bon, l'exercice physique, évidemment, ce n'est pas si simple que cela. Donc, c'est ce que nous devons faire tous les jours, établir cet équilibre. Il y en a certains qui ont une prédisposition, donc, à l'obésité. Je vous montre encore, donc, l'étude ici. Qui est paru ici dans le journal quotidien Tagesspiegel ici à Berlin. Et on voit que les Allemands, les hommes, dépassent pour 75,4% le Body Mass Index, BMI. Et bon, en France, on est quand même beaucoup mieux. Pour les femmes, donc c'est un peu moins, 59% en Allemagne, mais la France, 36%, en excellente position. Donc, depuis hier, il y a un nouveau programme promulgué par le ministre de la Santé et de l'Alimentation. C'est un programme qui s'appelle Fit statt Fett, donc fit en bonne santé au lieu d'être gros et gras. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps. Il y avait déjà une assurance vie, une compagnie d'assurance vie qui, il y a 50 ans, s'était déjà demandé comment se fait-il que dans les transports en commun à Londres, les chauffeurs de bus ont souvent des infarctus, tandis que le contrôleur, qui monte sans arrêt les escaliers, les redescend, les remonte, les redescend, n'ont pas ces problèmes. Eh bien, il y en a un, naturellement, qui court tout le temps les escaliers, tandis que l'autre est assis sans arrêt. Là, on voit encore l'infarctus du myocarde aigu qui se retrouve deux fois plus souvent donc chez les conducteurs que chez les contrôleurs de bus. Et la même chose vaut, par exemple, pour la comparaison entre standardiste qui est toujours assis et facteur qui porte le courrier, qui est en exercice physique tout le temps. Alors, il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été faites à cet égard à Harvard. 16 000 personnes où l'on a justement constaté ces résultats, c'est-à-dire selon l'exercice physique que l'on a, vous avez donc des résultats différents. Vous voyez les unités métaboliques ici. Et l'activité physique, y compris donc à un certain âge, c'est-à-dire ici même avec des personnes de plus de 70 ans, là même ça vaut encore la peine donc de conserver une activité physique et ça permet de prolonger la vie. Qu'en est-il en Allemagne ? Bien que nous ayons dressé un tableau vraiment donc très grave, eh bien les choses ne sont peut-être pas si défavorables car au cours des 25 dernières années, nous avons chez les hommes une prolongation de l'espérance de vie. Vous voyez que l'on est passé donc maintenant à l'âge de 76 ans en 2000. Et pour les femmes, on est passé de 76 à 82 ans, c'est-à-dire que l'on gagne 6 ans. Les hommes restent toujours en deçà des femmes, mais on a quand même des courbes parallèles et on a donc une prolongation de la vie. Une plus longue espérance de vie. Et là, nous avons des études qui sont publiées également à cet égard et qui montrent que ce bénéfice maintenant dont profite la population vient du fait précisément que les maladies cardiovasculaires sont devenues moins souvent mortelles. C'est-à-dire, cette espérance de vie prolongée est due au fait que les maladies cardiovasculaires sont mieux traitées à l'heure actuelle. Mais l'inconvénient, c'est que nous le faisons seulement à la fin de la maladie, lorsqu'il y a déjà un infarctus. Il y a 20 ans, la mortalité suite à l'infarctus était de 25 %. Aujourd'hui, lorsqu'on a une bonne clinique de cardiologie, on pourrait jamais dire que l'on a plus de 8 % de cas de décès. Normalement, la bonne moyenne, c'est 5 %. Et il y a naturellement des insuffisances cardiaques très importantes. Avant, nous n'avions aucun médicament pour empêcher la mortalité, les diurétiques, la digitalis, tout ça, donc, n'avait pas amélioré la situation. Entre-temps, au contraire, la mortalité est divisée par deux. Donc, ce bénéfice ici que nous avons pu réaliser avec le traitement des maladies cardiovasculaires a une influence considérable sur l'espérance de vie, mais on aurait tendance à perdre ces bénéfices si les générations des enfants se retrouvent dans une situation qui est au contraire hostile et mauvaise pour leur espérance de vie. C'est la raison pour laquelle il est grand temps d'améliorer les choses. Je vous remercie.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Dietz, für diesen faszinierenden
Grand merci, Monsieur le Professeur Dietz, de cet exposé d'ensemble fascinant que vous venez de présenter, tout en présentant les facteurs qui sont à la base, qui s'inscrit dans les différents secteurs. Qui veut poser une question? Qui veut faire un commentaire? Qui veut compléter quelque chose? J'aimerais bien commencer par une question provocante. Vous avez dit, à juste titre, que la cardiologie dans la perspective de la santé publique, arrive en retard. Si la maladie cardiovasculaire s'exprime, de toute façon, on est déjà en situation de catastrophe. Où est-ce que vous voyez une possibilité, dans le cadre de la santé publique, d'intégrer la cardiologie? En toute naïveté, ce matin, nous avons pu entendre déjà ce slogan « fit statt fett », c'est-à-dire être en bonne santé au lieu d'être gros gras, donc avec des arguments tout à fait convaincants. Ce sujet est inscrit à l'agenda politique et de toute façon, commence à essayer de tenir compte des exigences qui, depuis des décennies, sont formulées par la santé publique. Est-ce que, de façon tout à fait réaliste, vous voyez une possibilité que les médecins, d'une part, et les spécialistes de la santé publique se rapprochent, se réunissent, puissent se joindre dans une initiative?
Je vois avec plaisir qu'au cours des 5-6 dernières années, on a une attention accrue au niveau des spécialistes cardiologiques pour ce qui concerne ces questions. Et justement, les études les plus récentes, l'étude sur les écoles de Leipzig, ce qui a été réalisé par un cardiologue, on voit bien justement qu'il faut commencer dès le jardin d'enfants. Et comme on n'a pas encore beaucoup d'éducation physique, eh bien, il faut commencer très tôt et montrer donc dans un espace limité qu'une heure de sport par jour, cela favorise la santé des enfants. Cela est un facteur positif. Il faut démarrer le plus tôt possible en ce qui concerne aussi bien l'alimentation, les habitudes d'alimentation, qu'en ce qui concerne l'exercice physique. Si vous prenez quelqu'un de 40 ans qui a un BMI de 35, bon, prend donc du jarret de porc et il est sans cesse sur son canapé, il ne bouge pas, il est assis. Et si vous leur dites ça fait plaisir de bouger, etc., il ne vous comprendra pas. Et si vous leur dites un régime méditerranéen, c'est très agréable aussi, il vous regardera, il vous dira non, moi je ne donnerai même pas ça à manger à ma vache. Donc il faut vraiment voir quelles sont les personnes à risque, mais nous intervenons à l'heure actuelle beaucoup trop tard. Il faut au contraire essayer d'agir le plus tôt possible dans l'évolution des générations futures pour que les enfants eux-mêmes donc assimilent tout cela et sachent ce qui est bon pour eux. Et regardez, en Allemagne, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit différent en France. Il est tout à fait normal d'avoir juste en face des jardins d'enfants et des écoles, des kiosques avec toutes les sucreries possibles. Et ça coûte entre 25 et 40 centimes d'euros. Et allez-y. Et dites, moi, j'aimerais bien avoir une pomme pour mon enfant. Des pommes, non, on n'en a pas. Et d'ailleurs, la pomme est beaucoup plus chère, finalement, que le bâton de chocolat. Et ce qui est quand même macabre, c'est que nous avons donc des subventions de l'Union européenne pour les produits agricoles pour planter des pommes et ensuite les excédents sont détruits. Et là où on en aurait besoin, c'est-à-dire les enfants, eh bien, on ne leur donne pas, on ne les fait pas bénéficier de cela. Alors, c'est quand même intolérable. Alors, donc, c'est ça le contenu de la charte. Et durant ma présidence, j'ai toujours essayé de faire la promotion de cette charte et essayer donc de la faire connaître aux politiques. Parce qu'on déplace toujours la responsabilité. On dit toujours à l'individu, voilà, c'est lui qui est responsable de sa santé. Chacun doit comprendre qu'il est responsable de sa santé.